au Polysécure épisode grand public. Je suis avec Marie-Ève.
Bonjour.
Et nous allons discuter des courriels sécurisés et un peu démystifier qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça peut servir. Enfin, je te lance la balle pour que tu commences à poser des questions.
Oui, donc dans le dernier épisode, on a parlé des courriels anonymes. Puis finalement, là, la discussion a dévié vers les courriels sécurisés qui sont une toute autre chose. Donc, premièrement, Nicolas Lick, qu'est-ce qu'un courriel sécurisé?
C'est effectivement une autre bête. Un courriel sécurisé, c'est un courriel qui est, en termes techniques, qui est chiffré, c'est-à-dire que son contenu n'est pas accessible à des personnes qui ne sont pas autorisées. Donc, juste l'envoyeur et le destinataire qui sont capables de voir le contenu. L'opérateur du service de courriel n'est pas capable de voir le contenu et ça protège l'entièreté de la communication qui est dite privée à ce moment-là. Ça protège aussi la communication entre au niveau de source et destination. C'est sûr que dans un système comme c'est conçu, au niveau des courriels, c'est plus difficile. Si on est à l'intérieur d'un même opérateur courriel sécurisé, on est assuré. Sinon, il faut rajouter une petite couche supplémentaire fournie généralement par ce fournisseur-là.
Donc, si je comprends bien, les boîtes de courriel qu'on a tous, le Gmail, Outlook, là, c'est dans le fond le fournisseur de la boîte. Là, dans le fond, Google a accès à nos courriels.
Oui, ben, c'est un peu le principe de l'opération de ça. La gratuité qui est en arrière implique que Google est capable d'inspecter, pas qu'un humain qui vient inspecter spécifiquement notre boîte de courriel, mais il y a des automatismes qui viennent inspecter nos boîtes de courriel. Et c'est pour ça que généralement, on reçoit des publicités qui sont en lien avec les courriels qu'on reçoit, parce que Google analyse à travers ses gros moteurs d'inférence de réussir à trouver ces informations, donc de nous envoyer des publicités ciblées. Donc, si on reçoit un courriel sur une table, il est très probable qu'on va recevoir des publicités de table dans les jours qui suivent. Donc, c'est un peu le modèle qui est utilisé. Dans le cas d'un courriel sécurisé, le fournisseur ne voit pas ça. Et en général, le fournisseur n'est pas intéressé à cette information-là parce que son modèle d'affaires est différent. Donc, il ne réutilisera pas et nous enverra pas de choses. Donc, il assure une certaine vie privée aussi et il protège notre information.
C'est super intéressant parce qu'on transige quand même beaucoup d'informations là, par courriel. Je suis pas mal sûre que plusieurs d'entre nous aimeraient garder certaines informations privées. Ce service-là, ça ressemble à quoi? C'est quoi les coûts que ça engendre?
Le service qui est le plus médiatisé au niveau du courriel sécurisé, c'est ProtonMail. Il y a eu Hushmail qui était longtemps publicité. Il y a eu quelques petits démêlés avec la justice qui ont rendu ça compliqué, mais en tout cas, ProtonMail est le standard dans le domaine. Donc, ce service-là offre une adresse courriel gratuite avec un nombre très, très limité puis un concept très limité d'utilisation. Sinon, en payant un montant qui est quand même, à mon avis, très faible par rapport aux bénéfices qu'on reçoit, là, on est capable d'aller beaucoup plus loin, avoir une boîte beaucoup plus substantielle et l'ensemble des services qui sont associés avec ce que ProtonMail offre. Et ProtonMail offre, c'est que, au-delà du fait qu'ils garantissent qu'ils ne vont pas inspecter les courriels, comme Google fait, ils vont assurer aussi que le chiffrement est complet du contenu des courriels. C'est que même eux-mêmes, s'ils voudraient, ça leur tenterait à un moment donné de changer d'idée, ou qu'un de leurs employés décide du jour au lendemain de vouloir aller fouiller dans une boîte qui n'est pas censée, ils ne seraient pas capables puisque la clé qui permet d'accéder au courriel n'est disponible qu'à l'utilisateur et non à l'opérateur.
C'est intéressant. Puis, comment est-ce que ça fonctionne, là? Donc, moi, je me crée une adresse marievproton.com. Là. Puis, j'utilise cette adresse-là comme mon adresse principale. Par contre, tous mes comptes fonctionnent déjà avec une autre adresse courriel. Là. C'est assez fastidieux d'aller changer toutes les choses qui sont déjà établies. Y a-t-il d'autres solutions?
Ouais, ça, c'est un certain problème. C'est des discussions que j'ai eues avec plusieurs personnes. Une fois qu'on on a déjà notre empreinte avec une autre adresse courriel, c'est très difficile de changer. Puis ça, je comprends. Puis c'est un effort manuel sur tous les sites qu'il faut faire. J'ai déjà commencé sur plusieurs sites à faire cette modification-là parce que je suis en train de basculer. Entre autres, j'avais du Gmail qui était utilisé, pas exclusivement, mais ça en fait partie. Et j'ai commencé à changer vers mon adresse Proton à ce moment-là pour basculer tous ces courriels-là qui sont inspectés, dans le fond que Google me profile, vers une adresse où je sais qu'ils vont être en mise en, dans un contexte beaucoup plus sécurisé et dans lequel, même si Proton, vous allez voir, ne pourrait pas avoir le contenu. Pas que j'ai du contenu très, très secret, mais quand même, me faire profiler n'est pas nécessairement quelque chose que je me sens très à l'aise.
Intéressant. Puis, est-ce qu'il y a un moyen de lier le Proton avec nos courriels actuels?
Est-ce que tu peux expliquer le sens de ta question? Je ne suis pas sûr de comprendre.
Je veux dire, synchroniser un peu les courriels actuels, comme au lieu de recommencer de zéro, il n'y a pas moyen d'avoir un shortcut?
Ben non, un peu. C'est un peu ce que je disais. C'est que là, c'est comme une nouvelle adresse courriel qu'on a. C'est sûr qu'on peut, dans certains cas, l'ajouter à notre logiciel de courriel. Je crois que c'est en version payante seulement qu'on peut le faire. Mais cela étant dit, on peut l'avoir. Puis à ce moment-là, comme on est dans la version payante, ben, on est capable d'avoir notre logiciel. On est capable de prendre les anciens courriels et les déplacer dans Proton. Fait qu'on peut les enlever de Gmail, nos anciens, les mettre dans Proton pour une conservation sécuritaire. Par ailleurs, ceux qui continuent de nous envoyer à notre adresse Gmail, par exemple, vont continuer à l'envoyer à cette adresse-là. Donc, pour aller voir le site en question, aller faire l'opération de changer ça. Donc, c'est ça que c'est un peu fastidieux, c'est un peu plate comme processus, mais il y a un certain nombre de choses qui valent peut-être la peine justement de déplacer d'un à l'autre comme ça, justement pour se prémunir d'un certain nombre d'invasions à notre vie privée. Garantir qu'il n'y a personne qui est capable de lire et que les communications avec certains systèmes sont eux-mêmes sécurisés, que personne ne peut venir les espionner.
Oh, c'est super intéressant. Là, c'est sûr que ça parle à différentes personnes. Je pense que différentes personnes utilisent leur courriel pour différentes choses également. Donc, c'est sûr que c'est une bonne pratique dans le cas où qu'on utilise là, nos courriels avec l'information sensible, l'information qu'on veut garder anonyme. Fait que, de commencer par cette étape-là serait déjà une bonne étape.
C'est une façon effectivement de se protéger davantage. Ça évite justement qu'on se retrouve dans des situations plus précaires. C'est sûr que quand on communique par courriel en général, c'est pas sécuritaire, même si on est dans un contexte de courriel sécurisé dans le cas de Proton, parce que dès qu'on sort de l'univers de Proton, on perd un peu de cet élément de sécurité-là. C'est une des faiblesses des courriels. Et l'autre élément aussi qu'il faut considérer, c'est que ce serait bien de sortir les courriels de ces fournisseurs-là, ou Gmail, Proton, peu importe, justement pour qu'on puisse conserver la sécurité de ça. Si on perd accès, s'il arrive un pépin, parce que j'ai eu vent qu'il y avait un fournisseur de cette nature-là qui, il y a plusieurs années, a eu un pépin. Ou si, dans le cas de Proton, c'est ça, puis ça pour poser la question, si on perd notre mot de passe, ça, c'est un effet très, très important, puis il faut savoir, si on perd le mot de passe en Proton et on fait un reset de mot de passe, dans le cas d'un Gmail, c'est pas grave, on suit le processus, nous envoie une autre adresse, bon, on nous met à tout le processus de résolution, puis on va justement réinitialiser notre mot de passe et on réaccède à nos courriels dans le cas de Gmail. Code Proton, si on fait ça, si on fait une réinitialisation de mot de passe, en des termes techniques, c'est la clé qui est la clé de chiffrement de nos courriels qui est effacée et remplacée par une nouvelle au moment où on change de mot de passe de cette façon-là. Donc, tous les anciens courriels se trouvent être perdus. Plus personne n'a accès. Donc, oui, c'est sécuritaire. Oui, Proton n'est pas garde d'accès. Si nous-mêmes, on se met dans le pétrin, bien, on va perdre le contenu de nos propres courriels. Donc, on est dans une situation où pour se prémunir de ça, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un oubli de mot de passe. Donc, de justement sortir ces mots de passe, pas ces mots de passe, mais ces courriels de ces plateformes-là, les conserver dans une plateforme autre, locale, ou une archive locale que vous avez sur votre ordinateur, et prise en backup aussi, si vous voulez conserver ces courriels-là plus longtemps que jusqu'à temps de la vie de l'ordinateur, là, mais il faut les sortir.
C'est super super intéressant là. On a parlé aussi il y a quelques épisodes là du gestionnaire de mots de passe. Fait que c'est peut-être une bonne solution pour éviter de perdre ces mots de passe facilement. Puis par exemple là, si j'utilise Proton pour avoir mes rapports d'impôts de la part de mon comptable, ben je comprends bien ce que tu m'expliques, là, faudrait quand même que j'enregistre cette information-là sur mon ordi. Puis c'est idéalement avec un backup, là, comme ça, cette information-là est béton dans le cas où ce que je pourrais perdre ma clé pour, ben, mon mot de passe, pardon, pour me connecter, là, dans Proton.
Par exemple, aussi, il y a un cas, on a activé le deuxième facteur, on a oublié notre appareil de deuxième facteur, ben, à ce moment-là, effectivement, si on est en termes de recouvrement de notre compte, ben là, on ne perdra pas le contenu de notre compte à ce moment-là, parce qu'il n'est pas exclu qu'on perde notre téléphone. Notre téléphone brise, donc le fait de... Donc, là, on a une difficulté supplémentaire à aller récupérer notre compte. C'est toujours bon de ne pas s'appuyer sur ces fournisseurs-là pour fournir une forme de continuité d'information ou de backup de nos données. Nous sommes nous-mêmes responsables de ces 10 backups-là.
C'est super intéressant. Je pense que c'est une méthode quand même accessible là, pour commencer quelque part, puis commencer là, à sécuriser certaines transactions ou certaines choses qu'on fait dans le domaine des internets. Donc, pour moi, j'avais pas mal fait le tour de mes questions. Nicolas, qu'est-ce que tu en avais d'autres?
Pas des questions, mais j'ai d'autres informations. Là, si on parle spécifiquement de Proton, là, le service avec lequel je suis plus familier. À HMI, je suis moins familier, mais moi, dans le cas de Proton, il y a aussi le Proton Calendar qui est là. C'est-à-dire qu'on a un calendrier comme le Google Calendar, par exemple, ou peu importe le système que vous utilisez, qui dispose des mêmes niveaux de sécurité que les courriels. C'est-à-dire que la façon qui est chiffrée fait que personne n'est capable de récupérer le contenu sauf nous. Donc, c'est protégé. On a tendance à oublier que nos calendrier contient quand même beaucoup d'informations personnelles sur nos habitudes, sur qui on voit. Des fois, on a même des pièces ou des informations complémentaires qui sont d'une égale sensibilité. Donc, de réfléchir à ce contenu-là. Il y a en bêta le Proton Drive qui sont en train de développer, c'est-à-dire une espèce de concurrent à un Dropbox, mais dans ce cas-ci, qui répond aux mêmes critères de sécurité que le restant de leur système. Et a l'avantage de ne pas avoir devoir nous utiliser un système supplémentaire comme BoxCryptor pour nous protéger d'un Dropbox qui voudrait venir fouiller dans nos informations. Et il ne faut pas se leurrer. Un Dropbox vient fouiller dans nos informations. Ils ont commencé à utiliser certains scripts qui permettent de détecter des fichiers ou des éléments qui sont détectés comme étant subversifs, disons. Et ils vont les flaguer, ils vont les repérer dans nos comptes Dropbox. Donc, ça va se répéter. Donc, c'est un élément très important d'utiliser parce que ces fournisseurs-là vont venir fouiller dans nos informations.
C'est vraiment particulier, puis c'est vraiment des outils qui sont rendus indispensables, puis qu'on utilise quasiment au quotidien parce que c'est des choses maintenant qu'on a besoin pour gérer nos horaires et nos emplois du temps. Donc, c'est vraiment super intéressant là, d'être sensibilisé au fait que cette information-là est accessible par les fournisseurs puis d'avoir des ressources qui sont plus sécures à utiliser.
Tout à fait. Puis savoir justement qu'on puisse être maître de la protection de nos informations.
Est-ce que tu veux rajouter autre chose?
Non, ça fait le tour pour moi.
Merci bien, Nicolas, d'avoir éclairé ce sujet et je vous dis à la prochaine.
À la prochaine.